Alors ce matin, je voulais débuter un petit peu par quelques petites réflexions qui me sont venues, des questions un peu essentielles. Alors je ne vais pas vous demander une rédaction de philosophie, le bac est passé, mais j'avais quelques questions à vous poser qui me sont venues par l'intermédiaire de ce que je vis en ce moment dans mon travail. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien ? J'attends pas de réponse, hein, c'est pour chacun, mais qu'est-ce qui vous conduit ? Quelles sont vos sources d'influence ? Comment rayonnez-vous ? Des questions un petit peu existentielles, mais qui s'adressent aussi, je pense, à nous en tant que croyants. Et moi, je les vis en ce moment, ces questions, dans mon travail, parce qu'on est amené à questionner la vision de l'association dans laquelle je travaille en tant que cadre de santé. Et dans le cadre de cette vision, on questionne des gens avec ces questions-là. Et il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'on est en train de les interroger dans le cadre du post-Covid. Et je me rends compte qu'en fait, beaucoup de ces gens que j'interroge, certains sont très haut placés, hein, il y a des gens qui dépendent de ministères, qui ont des responsabilités élevées. Et la plupart de ces gens, quand je les interroge, répondent avec du sens très profond. Il y en a qui m'ont parlé de dire que ce qui les motivait dans la vie, ce qui les inspirait, ce qui les conduisait, c'était l'amour des autres. Et c'est pas forcément, alors peut-être que ces gens sont chrétiens, croyants, j'en sais rien, mais de prime abord, c'est pas ce qui nous unit au moment où je fais un petit peu ces interviews concernant notre vision d'association. Et puis d'autres m'ont dit que ce qui les portait dans la circonstance actuelle, c'était de se fixer non pas sur les problèmes, mais sur les solutions possibles. Moi, j'ai trouvé ça très beau, parce que je me suis dit, tiens, ça c'est quand même un comportement aussi que Jésus avait, il ne se fixait pas sur les notions de problématiques, il se fixait sur les solutions, sur opérer des miracles, comme on était en train de le chanter à l'instant. Et j'ai constaté que voilà, il y avait pas mal de personnes quand même dans notre pays qui avaient ces aspirations profondes, peut-être pas portées par une foi en arrière-plan, mais il y avait ça présent. Et de l'autre côté, la plupart de ces gens m'ont dit aussi, mais la crise du Covid, malheureusement, risque de ne rien changer. Parce que finalement, ce qu'on observe actuellement et ces derniers temps, et puis là, j'entendais encore ce matin à la radio, où ils disaient, voilà, l'épidémie risque de reprendre, et elle reprend, elle a rebasculé dans certains chiffres, à certains endroits. Eh bien, finalement, les gens se comportent comme si rien ne s'était passé. Et j'avais un entrepreneur qui me disait, mais au plus profond de moi-même, ce que je suis persuadé, il m'a dit, c'est finalement, les gens qui changeront, c'est ceux qui ont cette aspiration en eux-mêmes. Et ce matin, j'ai envie de vous parler finalement autour de ce qui nous influence, du style de vie qu'on a envie d'avoir. Est-ce que dans les influences, c'est ces éléments qui nous influencent au quotidien ? Est-ce que c'est les médias ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? On est à l'ère d'une société où finalement, ce qui nous influence beaucoup, c'est la notion de l'image, de l'information, et ça peut même nous miner. Je ne sais pas si vous avez déjà fait expérience, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a des moments de déconnecter plusieurs jours, on se sent mieux après. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. On est à l'ère des influenceurs, sur YouTube, etc. Mais vous êtes destinés à être aussi des influenceurs, des influenceuses. Alors peut-être pas pour vendre des produits médias, des produits de beauté, etc. C'est peut-être votre travail à côté, mais là, ce matin, j'ai pas envie d'aborder ces notions-là. En tant que fils et filles du roi, sachez qu'on a tous un appel commun et qu'on a tous aussi un appel à suivre un style de vie. On est appelé à rayonner. C'est ce qui est dit dans Matthieu 5, hein, 13 à 16. On est appelé à donner du goût autour de nous, à avoir une bonne saveur. Vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son goût ? Il ne sert plus à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Et dernièrement, le Seigneur m'a travaillé parce que j'ai vu ça dans mon travail de manière très forte. Alors, je ne peux pas vous donner tous les détails parce qu'il y a des notions où je ne voudrais pas, si la vidéo est vue, mettre mal à l'aise certaines personnes. Mais je me suis rendu compte que dans mon travail, on avait inscrit des valeurs profondes là où je suis, autour de la bienveillance, de la droiture, de l'authenticité, du fait de faire confiance aux gens, de se dire les choses. Et en fait, tous ces éléments, quand on les regarde de manière plus profonde, c'est des éléments très inspirés sur la posture de Jésus. Et ce que je constate en vivant ça, alors moi j'ai la chance d'être à la fois chrétien et engagé dans ce travail-là, du coup c'est un peu le match parfait, j'ai envie de dire, et ce que je vois, c'est que ça fait du bien aux gens avec qui on travaille. Et je travaille avec des gens, pour certains, haut placés dans des organismes de décision pour le pays, sur le domaine de la santé. Il y en a un qui nous... J'étais en réunion avec lui, et à la fin de la réunion, un peu en off, il nous a dit « Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais c'est la première fois que je me sens aussi bien dans la relation. » Et cette personne travaille sur un très grand organisme, et elle disait « Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent à pas être droit avec nous, qui sont pas honnêtes, où finalement on est déçu parce qu'il y a un manque de confiance. » Et vous, vous prenez quelque chose qui est écrit dans ce que vous proposez et vous le vivez également. Et il disait « Mais vous pouvez pas savoir comme ça me fait du bien. » D'autres personnes avec qui je travaille m'ont dit « Mais on a l'impression d'être aimé dans ce que vous faites avec nous. » Alors, pas un amour voilà homme-femme, mais un amour profond, agapé, j'ai envie de dire, dans les relations. Et de dire « Vous m'avez redonné du sens dans mon travail, vous m'avez redonné une raison d'être, je me suis senti écouté. » Et ça m'a interrogé parce que je me suis dit bah, « Tiens, finalement, on a mis en œuvre bah, des fondements dans notre structure qui, au final, sont des fondements très inspirés, même si ce n'était pas l'objectif premier. Et de l'autre côté, on est quelques croyants aussi dans cette association, ce n'est pas ce qu'on vend en premier, mais à porter ça et à le vivre. Et finalement, bah, ça... on est en train de vivre ce que propose Matthieu 5 et de voir derrière que ça a un effet bénéfique, de bénédiction, de transformation des cœurs, même chez des gens qui sont pas forcément engagés avec le Seigneur. Et ça, je pense que c'est une loi profonde de Dieu, c'est une loi profonde spirituelle. Et quand on commence à vivre ça, eh bien, on voit des choses qui bougent même au-delà de ses propres limites, même au-delà de son petit cercle. On se dirait, non, mais Dieu, est-ce que tu vas aller jusqu'au-delà de mon cercle? Est-ce que tu vas aller bouger ces lignes-là? Eh bien, oui. Et ce matin, j'ai envie, du coup, qu'on puisse parler ensemble de ce style de vie aligné sur les valeurs du ciel. Alors, je suis très conscient que ce que je vais vous présenter, c'est très imparfait et ça sera incomplet. Parce que je pense qu'on pourrait en faire un séminaire ou un livre ou même plusieurs livres. Et j'ai décidé du coup de retenir que certains éléments qui me semblaient être parlants pour ce matin. Et on va essayer de les parcourir ensemble. La première chose sur laquelle je me suis questionné, c'est finalement à quelle ligne de conduite on est appelé. Et j'ai repris un passage, et donc c'est Dieu qui parle à Abraham dans Genèse 17. « Je suis le Dieu souverain, vis toujours en ma présence et sois intègre. » Alors à la limite, je pourrais dire, bon ben voilà, c'est l'intro, la conclusion et le développement. Bon dimanche à tous. Mais on va quand même continuer un peu. « Vis toujours en ma présence et sois intègre. » On est tous appelés finalement à répondre à cette invitation, mais qui nécessite finalement une vie transformée en conséquence. Parce que c'est juste quelques mots, mais en arrière-plan, ça veut dire tellement sur le parcours qu'on mène avec Jésus. Et justement, bah, Jésus est peut-être, et je pense, moi j'en suis certain, c'est sûrement le modèle parfait qui a le plus répondu à ça et qui nous a donné la meilleure image ici-bas de ce que ça veut dire. Vis toujours en ma présence et sois intègre, sois droit. Et on est appelé à rester unis à Dieu au travers de Jésus. Comme c'est dit dans 1 Jean 3, versets 5 à 6, « Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit « Je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. » Alors, ce n'est pas une supposition, hein, c'est un impératif. Hein, il doit. Il y a un aspect directif dans cette phrase. Et donc, une fois qu'on a cette ligne de conduite, bah, ce qui m'a interrogé, c'est de me dire, bah, finalement, comment Jésus a vécu, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? C'était un modèle parfait. Et finalement, on n'aura, je pense, pas assez de toute la vie qu'on a ici-bas pour atteindre ce modèle parfait. Je pense que Dieu nous appelle à tendre vers ça. Maintenant, moi, je veux reconnaître pour ma propre vie que je ne suis pas persuadé que de toute ma vie ici-bas, j'aurais atteint la perfection telle que Jésus était. peut-être certains dans la salle. Je vous laisse libre de réfléchir à ça. Qu'est-ce que Jésus nous a montré? Tout d'abord, il nous a démontré son amour pour le Père, jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à l'obéissance ultime au Père. Et il nous a montré aussi toute l'importance de la relation à Dieu le Père. Jésus était très connecté à son Père. On a de nombreux passages qui nous parlent, durant toute sa vie ici-bas, des temps qu'il prenait à part, dans le désert, à part de ses disciples pour prier tôt le matin, même jusqu'au moment de la croix, il va dans Gethsémané prendre du temps avec son Père. Il y a cette relation continue. Ça, c'est une chose qu'on peut retenir. La deuxième chose, c'est que Jésus avait une très forte liberté intérieure et en même temps, une forte conscience de la responsabilité qu'il avait ici-bas. Il était le Fils de Dieu, donc il est conscient, je pense, de toute la responsabilité qu'il avait, mais il a aussi adapté sa responsabilité personnelle ici-bas. Ça a démarré même dès son enfance. Quand on regarde, au moment donné, il échappe à la surveillance de Joseph et Marie, et puis il leur répond au moment où Marie, j'imagine, les parents étaient en panique. En plus, du coup, Jérusalem, il y a eu du monde, tout ça. Vous imaginez, pour ceux qui ont peut-être déjà perdu quelques secondes un enfant dans un parc, un supermarché, bon, bah là, voilà ce que ça peut donner. Il y a des regards qui se croisent, je ne viserai personne. Mais Jésus, dès son plus jeune âge, a eu cette responsabilité, en répondant à Joseph-Marie, mais je dois m'occuper, je suis appelé à m'occuper des affaires de mon Père. Et une liberté très forte, parce que Jésus n'a jamais considéré les gens par leur côté de niveau social. Il a su s'adapter à tous, parlant autant aux plus pauvres, aux lépreux, aux prostituées, qu'à ceux qui étaient vus comme ayant une position sociale. Collecteurs d'impôts, romains, les pharisiens. Et une très forte liberté aussi pour dire les choses, toujours avec amour, mais il ne s'est jamais contenu en soi. Une liberté intérieure où il a aussi exprimé ses émotions, toujours en étant conduit par l'amour. L'amour, ça ne veut pas dire juste être gentil tel qu'on le considérerait, sachant qu'en plus dans le Nord, gentil, par moments, ça a d'autres consonances. L'amour, c'est aussi par moments savoir mettre des limites. Et c'est ce que Jésus a su faire ici-bas. Et il a su aussi aller vers ceux qui étaient les plus mis à part, ceux qui étaient les moins considérés. Il aurait fait scandale, hein, parce que, bah, à la limite, dans notre période où on a beaucoup de propos sur le féminisme, le MeToo, etc., Jésus, à l'époque, il a un petit peu défoncé les barrières dans la considération de la femme. Hein, parce que la considération des femmes, autant... biblique, là, c'était pas forcément la meilleure position sociale. Et Jésus a accueilli des femmes autour de lui, et pourtant pas celles qui étaient, entre guillemets, les plus glorieuses pour l'époque. Et la résurrection, il l'a révélée à elles en première aussi. Hein. Il était indépendant à l'égard des hommes, mais avait un profond et véritable amour pour eux. T'es aussi un maître, je pense, de discipline, dans le bon sens du terme, et de la maîtrise de soi. Il était aussi avec un intérieur plein de paix et un mouvement de joie profonde, réel. Et c'est assez drôle, mais là, le premier miracle, même sur la joie, on peut voir, c'est le vin. Hein. C'était pour faire la fête. C'était quelqu'un, Jésus ici-bas, qui était pleinement conscient de son identité, de qui il représentait et pourquoi il était là, quelle était sa mission. Et on a tous, en tant que fils et filles, un appel à la suite de Jésus. À partir du moment où on s'engage avec lui, où on décide de le suivre, eh bien on a chacun et chacune un appel à une mission royale. Et cette mission, j'ai juste décliné finalement en essayant de regarder ce que Jésus a fait ici-bas. Montrer un cœur, le cœur et l'amour de Dieu aux autres. Ça, c'est une chose qu'il a fait. Faire les bonnes œuvres de Dieu à laquelle il nous appelle. C'est ce qu'il a fait aussi ici-bas. Détruire les œuvres de l'ennemi. C'est ce qu'il a fait et il a appelé ses disciples à le faire. Quand il les envoie, une fois qu'il les a un peu formés, il leur dit bien, hein, chassez les démons, guérissez les malades. Participer à l'avancement du royaume de Dieu ici-bas. Même chose quand on prend ce passage dans Matthieu, quand il les envoie, il leur dit bien, annoncez que le royaume de Dieu s'est approché, annoncez que le royaume de Dieu est proche. Et à nouveau, nous, bah, je pense qu'on a cette continuité à vivre ici-bas en tant que disciples de Jésus. C'est notre appel et notre mission. Alors, j'ai mis royal volontairement parce qu'on est tous fils et filles de Dieu, donc on est prince et princesse. On a ce statut dont j'avais parlé dans mon précédent partage. Une chose importante sur laquelle j'aimerais insister aussi, et ça rejoindra ce que tu avais aussi commencé à évoquer, Bruno, dans des précédents partages, et c'est d'autant plus, je pense, présent avec ce qu'on vit actuellement, et ça risque d'être encore très présent dans les mois, les années à venir. Ne nous laissons pas influencer les circonstances. Ça, c'est un des axes forts du style de vie de Jésus ici-bas. Il s'est pas conformé aux circonstances présentes, et c'est pas ce qu'a dicté sa conduite. Sa conduite, elle était dictée par sa mission divine, ce pourquoi il était ici-bas. Et un passage que j'aime bien, c'est ce qui se vit dans Luc 8, versets 22 à 24. Un jour, Jésus monte dans une barque avec ses disciples, il leur dit « Allons de l'autre côté du lac » et ils partent. Pendant la traversée, Jésus s'endort. Soudain, un vent violent se met à souffler sur le lac. L'eau entre dans la barque et ils sont en danger. Les disciples s'approchent de Jésus et ils le réveillent en disant « Maître, maître, nous allons mourir ». Jésus se réveille. Il menace le vent et les grosses vagues, alors la tempête s'arrête et tout devient calme. Quand on regarde l'attitude de Jésus tout au long de ce passage, il est en paix. Il est super calme, il s'endort dans la barque. Pourtant, il est Dieu, à mon avis, il savait très bien ce qui allait se passer. Et par contre, les disciples, eux, se focalisent sur quelque chose qui est plus de l'ordre du moment, de la situation vécue. Eux, ils voient le vent, l'eau, la réflexion, c'est pas pour être sauvés, bon, bien sûr, ils vont faire appel à Jésus, mais quand ils réveillent, c'est on est mort, quoi, hein, c'est fini. Combien de fois dans nos existences ici-bas, on se focalise sur les circonstances, sur ce qu'on vit? Combien de personnes est-ce qu'on a pu voir pendant la période du Covid, mais qui étaient focalisées sur toute la peur, l'angoisse, les craintes, sur le fait de faire attention au niveau des finances. À un moment donné, on est appelé dans notre style de vie avec Jésus à ne pas rester focalisé sur les circonstances, mais à regarder sur les solutions qu'il a, lui, pour nous et pour ce qu'on est en train de vivre. Et souvent même, ces solutions peuvent être au-delà de ce qu'on imagine, peuvent être au-delà de nos limites. Jésus fait ici aussi preuve et il démontre une notion de puissance. Et cette puissance, il nous l'a donnée par le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. À partir du moment où on a conscience de ça, où on vit ça, où on a acquis cette puissance du Saint-Esprit en nous, associée à l'amour, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Alors, c'est facile à dire. Dieu est super sympa avec nous, je pense qu'on a le droit aux exercices, on a le droit aux loupés, on a le droit aux sessions où on recommence. Mais apprenons, et puis demandons au Saint-Esprit aussi, de nous apprendre à pas regarder juste la circonstance, mais ce que lui veut faire au travers de la situation qu'on vit. Ça, c'est un premier, je pense, axe fort qu'on peut retenir dans le fait de vivre dans un style de vie aligné sur les valeurs du royaume, aligné sur la vie de Jésus. Un autre passage pour ce matin que j'avais à cœur de vous transmettre et qui va dans la continuité de ce que j'avais partagé la dernière fois, où j'avais terminé en parlant aussi du fait de porter du fruit, c'est Paul dans Philippiens qui nous rappelle finalement quels doivent être les grands axes de notre vie en termes d'émotions, en termes de vécu intérieur, en termes de fondation de notre vie. Et quand on lit l'histoire de Paul, c'est d'autant plus force qu'il partage, parce que quand il écrit ça, il est en prison. Et il arrive à sortir ça au moment où il est en prison. Moi, je suis pas sûr que ce serait forcément ce que j'aurais écrit. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Il n'est pas dit alternez dépression et joie, ou focalisez-vous sur les éléments tristes. Non, il est bien dit soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Et il le répète même, il appuie dessus, je le répète, soyez dans la joie, Soyez bons avec tout le monde, le Seigneur vient bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que l'élément fondateur dans le passage, c'est la joie. Et on va voir que ça décline d'autres choses derrière. La bonté. Ne soyez inquiets de rien, la paix. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Dans d'autres versions, au-delà de la demande, c'est exprimer vos besoins. Ça, c'est pas toujours évident pour nous, parce qu'il y a des moments où on sait très bien dire ce qui va pas. Par contre, on sait pas forcément aller creuser quel est notre besoin profond derrière. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ah, ça, c'est drôle, parce que du coup, il y a des moments quand on prie, on aurait peut-être tendance à être un peu en mode liste de courses ou à être en train de dire ce qui nous semble bon pour nous. Mais si on prend l'ordre du passage, demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, donc exprimez vos besoins, mais faites-le avec un cœur reconnaissant. On reviendra là-dessus par la suite. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs, vos pensées unies au Christ Jésus. On a ici la recette parfaite sur le fait d'être paisible et de vivre une vie calme, comme Jésus dans la barque. La joie, la bonté, ça enclenchera la paix, avoir ce cœur reconnaissant. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, vérité, droiture, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et Dieu qui donne la paix sera avec vous. Voilà, une petite dizaine de lignes, et là vous avez la vie et le style de vie, je pense, entre guillemets, perfect. Et pour autant, c'est pas simple, parce que être dans la joie, il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Et Paul va plus loin au travers de ça dans Romains 5, versets 3 à 5, où il nous dit « Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. » Paul va du coup jusqu'à même dire que dans les moments les plus compliqués, il nous appelle, et le plan de Dieu pour nous, c'est de pouvoir, malgré tout, trouver de la réjouissance dans notre relation au Père. Pas simple. Moi, je vais être le premier à vous dire que il y a des moments où j'applique pas ça directement. Mais quand j'ai relu ça, je me suis dit, waouh, quand même, Paul là, va très loin dans ce qu'il dit. Et finalement, ça nous interpelle à un moment donné sur le fait de nous focaliser dans notre relation à Dieu, sur l'être, plutôt que uniquement sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est en premier lieu. Parce que pour être reconnaissant, bien sûr, on peut être reconnaissant pour des actions, mais la première chose à laquelle on est appelé quand on relit ces passages, c'est finalement à être reconnaissant pour qui est Dieu avant tout. C'est les premières choses sur lesquelles on peut trouver de la réjouissance, des sujets de reconnaissance, et c'est ce qui va, à un moment donné, nous apporter la paix la plus profonde possible et qui va nous permettre après de pouvoir rayonner de cette paix et de du lien qui nous unit à Dieu autour de nous. On a cet appel à être, et notre valeur finalement avec Dieu, elle se trouve dans le fait d'être et non dans le faire. Il y a eu c'était assez drôle, mais pendant le confinement, j'ai pris un moment de prière, de louange, et demandé à Dieu ce qu'il voulait pour moi, et il y a eu un mot, il m'a dit « sois ». Mais très très fort, enfin le Saint-Esprit m'a mis ça, mais vraiment profondément. Et je lisais tous ces passages, j'avais toutes ces réflexions qui me conduisent actuellement, et que je vous partage. Et c'était assez drôle parce que j'ai entendu derrière plusieurs ministères qui ont partagé sur ça, de dire « mais dans les temps que nous vivons, on a un appel à revenir à ce qui fait notre relation profonde à Dieu et à peut-être à découvrir ou à redécouvrir cette relation. Dieu n'est pas focalisé sur ce qu'on fait en premier plan, il est focalisé sur qui on est avec lui. C'est pour ça qu'après, j'ai cité cette phrase-là que j'ai entendue d'un pasteur qui partageait, c'était assez drôle, j'avais ce passage à cœur, et puis j'entends un partage vendredi d'un pasteur de l'église, du coup, à Nouvelle Vie, c'est la chapelle, en fait, c'est une église qui a été dérivée de Nouvelle Vie, et le pasteur partageait sur la matinale, sur ce côté, de dire, mais à un moment donné, qui je suis n'est pas ce que je fais. Et ce qui prime en premier plan pour Dieu, c'est qui vous êtes. Derrière, bien sûr, ça va influencer nos actions, tout ça. Mais s'il n'y a pas ce fondement-là de l'être et de la relation, derrière, les actions suivront pas. Et c'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qu'il cherche à travailler en premier plan avec nous, c'est cette relation. Et on est appelé à se réjouir, comme je disais juste avant, de qui est Dieu, avant de se réjouir de ce qu'il fait. Bien sûr, on peut se réjouir pour ce qu'il fait dans nos vies, mais la première chose qui doit nous animer, c'est qui il est. Ça rejoint ce que Bruno partageait en disant qu'à un moment donné, Dieu ne change pas. Les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas l'appel, Dieu ne change pas la mission, tout ça, ça perdure. Et pour en arriver à ça, à cette conscience de la notion du soi, de l'être avec Dieu le Père, automatiquement, ça nécessite un travail sur nos pensées, sur nous-mêmes, parce que c'est pas inné. La première chose dans nos pensées, quand on a des circonstances, vous avez un collègue de travail qui vous a fait une crasse, je suis pas sûr que vous allez être tout de suite dans la paix, l'amour, la reconnaissance, etc. En tout cas, moi, c'est pas forcément toujours la première pensée qui arrive. À un moment donné, on va plutôt être dans la notion de l'amertume, de la colère, de la déception, voire de la tristesse. Parce que tout ça, ça rejoindra ce que tu disais aussi juste avant, tu parlais des émotions, ces éléments que je viens de citer, ce sont des émotions. Et on n'est pas constitué avec des petits tiroirs, il y aurait le tiroir du corps, il y aurait le tiroir de l'âme, des émotions, et puis le tiroir esprit, le tiroir spirituel. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je préfère voir l'image, vous avez déjà vu des poupées russes ? Poupées russes, c'est un briquet. Et finalement, c'est comme si la poupée russe centrale à laquelle on est appelé à vraiment mettre au cœur de nous-mêmes, c'est celle de l'esprit et de la vie avec le Saint-Esprit. Et par-dessus vont s'imbriquer la poupée russe autour de toutes nos émotions, de ce qui est notre être intérieur. Et puis l'expression de tout ça, ça va être au niveau du corps. Alors pas juste le corps physique, ça peut être la parole. Et finalement, ça rejoint l'image aussi de la lumière. C'est comme si à un moment donné, votre vie avec le Saint-Esprit, c'était l'énergie. Ou à un moment donné, alors on peut prendre l'énergie électrique, ça peut être la pile, ça peut être l'énergie de l'huile, par exemple. Et derrière, il y a ce qui va être, ce qui va permettre la lumière. L'ampoule, la bougie, ça c'est un petit peu notre être intérieur. Et derrière, il y a le corps finalement de cette lampe, le format. Est-ce que ça va être un lampadaire? Est-ce que ça va être un abat-jour? Une petite bougie? Sur un petit bougeoir, voilà. Un chandelier. Et ça, c'est un peu une image que j'avais à cœur de vous partager pour vous dire, voilà, finalement, les trois éléments ne peuvent pas être désolidarisés les uns des autres. C'est pas l'appel qu'on a. Savoir que notre corps, de toute façon, il restera ici-bas, plus tard. C'est pas ce qui va rester. Et Dieu, au travers du Saint-Esprit, il nous appelle à pouvoir, du coup, retrouver ce plein alignement, ce plein équilibre de vie à partir de la relation qu'on a avec le Saint-Esprit. Si on a cette relation et qu'on est à l'écoute du Saint-Esprit, à un moment donné, ça va venir impacter, ça va venir travailler nos émotions, notre être intérieur. Si on reprend les passages de Paul, finalement, c'est ce qu'a expliqué. Et ça impactera notre manière d'être dans nos paroles, dans nos actes, ce que notre corps fait auprès des autres. Alors, ce n'est pas quelque chose qui se déroule en mode tac, hein, ce n'est pas Mary Poppins. Hein. Hop, effet magique, non, pas du tout. C'est un travail de persévérance, de longue haleine, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est-à-dire que Dieu s'adapte aussi, il est très pédagogique avec nous sur le fait de à un moment donné, venir travailler avec nous au moment où on est prêt. Jésus n'a jamais forcé les gens. Quand vous regardez la manière dont il procédait, il leur demandait « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors que ça paraissait très flagrant. À un moment donné, il y avait un aveugle, il y avait quelqu'un qui était boiteux. « que veux-tu que je te fasse ? Et je pense qu'avec le Saint-Esprit, à un moment donné, on est amené à avoir cette responsabilisation, parce qu'on est, on peut avoir la maîtrise hein, sur nos émotions, sur nos pensées intérieures, ça s'apprend. Et on a le pouvoir aussi de prendre le dessus, parce que l'ennemi, il aime bien venir axer sur ces aspects de pensée, d'émotion, de vous faire croire que même ça vient de vous, alors que à ce moment-là, ça vient pas de vous. C'est le maître du mensonge, hein. Donc déguiser une soi-disant réalité en quelque chose de très beau, hein, ou nous faire croire autre chose, ça c'est sa tactique. Mais on a l'autorité à un moment donné, bah, par le Saint-Esprit aussi en nous, de pouvoir prendre le dessus sur ses pensées, sur ses émotions qui pourraient à un moment donné nous entraîner bah, vers la peur, vers une tristesse hyper profonde, hein, etc., vers la colère. Les émotions ne sont pas mauvaises, hein, puisque c'est Dieu qui les a créées à la base, et elles sont des alertes de ce qui se vit à l'intérieur. Puis à un moment donné, quand on ne les écoute pas, souvent ça vient se manifester même au niveau physique. Mais on a un vrai appel à pouvoir, du coup, retrouver un équilibre de relation avec Dieu dans notre vie, dans la manière dont nous marchons, en prenant en considération tous ces plans de qui on est ici-bas. Tout ça pour arriver à la conclusion que j'ai envie de partager avec vous et qui est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. J'aurai encore une diapo derrière. Mais notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. C'est ce que je viens d'évoquer juste avant. Arriver à cette transformation qui fasse qu'à un moment donné, ben, on soit pleinement resplendissant à l'image de Christ. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. J'aime bien cette fin parce qu'il y a cette idée de chemin. La gloire est toujours plus grande, c'est comme si c'était quelque chose qui grandissait. Et on est appelé à croître et à grandir dans ce style de vie que j'ai évoqué avec vous ce matin. On aurait pu mettre d'autres composantes, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, mais c'était celle qui me parlait le plus pour partager avec vous. Nous sommes appelés à croître, à grandir, à porter du fruit, comme j'en ai partagé la dernière fois, et à vivre le style de vie des fils et des filles de Dieu au travers du modèle de Jésus. C'est conditionné aussi à notre disposition intérieure. Est-ce qu'on est pleinement rentré dans notre identité de fils et de fille de Dieu ? À une juste qualité de relation avec Dieu et les autres. À un moment donné, si vous êtes aligné dans votre relation au Père, ça va déteindre de manière extraordinaire forcément sur votre relation avec les autres. C'est pour ça aussi que quand il est demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, ça démarre par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force » et le deuxième commandement « Et ton prochain comme toi-même ». L'ordre, il est très précis. C'est aussi lié à l'humilité qui va nous conduire à la liberté. La humilité de reconnaître qu'on est totalement imparfait et que juste par nos propres forces, on n'y arrivera mais jamais. C'est aussi le choix de décider, et ça c'est notre responsabilité individuelle, et ça rejoint l'image de ce que Jésus a fait ici-bas et de l'image qu'il nous a donnée, de dire mais je choisis de vivre Dieu selon tes conseils. Mais maintenant je reconnais que je suis totalement imparfait, que j'ai pas toute la force, j'ai pas toute la puissance pour vivre ça. Et donc là, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour pouvoir arriver à cela. Et pour terminer ce matin, je voudrais vraiment vous laisser ce questionnement, et puis vous laisserez réfléchir un peu, je vais prier à la suite. Quelle démarche nouvelle désires-tu pour moi, Saint-Esprit, pour que je sois de plus en plus conforme à l'image de Christ ? J'ai envie de vous laisser ça comme réflexion avec ce que je viens de partager. On va être en plus sur un temps où c'est l'été, où on sait que bon, le rythme est souvent un peu différent, des moments où on va être plus éloignés les uns des autres, il y en a qui partent en congé. Et peut-être ça peut être quelque chose qu'on garde comme une prière et comme quelque chose sur lequel on a envie d'être à l'écoute du Saint-Esprit sur ce qu'il a à nous dire pour être pleinement dans ce style de vie, pour reprendre la thématique. J'aurai peut-être l'occasion de repartager une prochaine fois sur la notion de style de relation à laquelle on est appelé. m'ai touché quelques mots ce matin. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vous laisser cette question et puis un peu que vous pouvez exprimer comme une prière auprès du Saint-Esprit. Quelle démarche nouvelle désires-tu pour moi, Saint-Esprit, pour que je sois de plus en plus conforme à l'image de Christ ? Père, je veux te remercier pour ta présence parmi nous, je veux te remercier pour ta grandeur, pour ton amour. Merci parce que tu as un amour qui est extraordinaire et identique pour chacun de nous, quel que soit notre parcours, quelles que soient nos circonstances de vie. Tu désires vraiment être dans une relation profonde avec nous et que nous puissions apprendre de plus en plus à te connaître, à t'écouter. Père, nous voulons grandir dans notre relation avec ton Saint-Esprit, être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire en cette saison, en ces temps. Saint-Esprit, révèle-nous ce que tu veux faire évoluer, travailler en chacun de nous pour que nous soyons de plus en plus à l'image de Christ. Merci pour tout le travail que tu opères en nous à partir du moment où nous sommes prêts. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui nous brusque, tu n'es pas un Dieu qui est violent avec nous, tu es un Dieu rempli d'amour et de bonté. Seigneur, on veut croire que dans les temps qui viennent, tu nous appelles à pouvoir adopter de plus en plus ce style de vie que tu nous as démontré ici-bas. Merci de te révéler à chacun, chacune, à ceux aussi qui écouteront ce temps de partage. C'est-à-dire que ces temps d'été soient des temps où on puisse vraiment pleinement profiter d'une relation approfondie, où nous serons encore plus à l'écoute de ton Saint-Esprit. Merci pour la manière dont tu vas parler et pour ce que tu vas opérer dans les cœurs. Merci pour ce que tu vas amener à transformation, Seigneur, à ton image. Amen.